Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le jeudi 13 janvier. On espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Même si de bon matin, même de bon matin à 4h57, nous on ne doute pas de notre plaisir comme chaque jour de vous accompagner jusqu'à 6h30.
Oui, on va tout faire pour rendre ce moment le plus agréable possible, car on a bien conscience que pour beaucoup d'entre vous, la journée va être longue et difficile.
Oui, si vous êtes parents, c'est un jeudi noir qui s'annonce, une grève dans l'éducation nationale que vont suivre les trois quarts des enseignants dans le premier degré. La moitié des écoles ne vont pas ouvrir ce matin, c'est en tout cas ce que promettent les syndicats.
Enseignants, chefs d'établissement et même parents d'élèves, beaucoup dénoncent les protocoles sanitaires successifs qu'on leur demande d'appliquer.
Contrôle des attestations à l'entrée le matin, recensement des cas contacts, classe qui ferme, faute de profs remplaçants qui n'arrivent pas. Voilà le quotidien depuis la rentrée de notre invité à 6h10, Olivier Flippot, directeur d'une école élémentaire dans le Val d'Oise et par ailleurs délégué du syndicat des enseignants UNSA. Omblin, vous avez décidé, à raison, de nous extraire du Covid pour nous parler de ce défi que s'est lancé cette semaine un militaire.
Il s'appelle Pascal, il est officier de l'armée de l'air et il souffre du syndrome du stress post-traumatique après avoir vécu des combats meurtriers. Alors pour essayer d'aller de l'avant et mettre en lumière cette blessure invisible qui touche de nombreux soldats, il est en train de descendre la Loire en kayak, en totale autonomie.
750 km à parcourir en tout, 18 heures de navigation par jour, il devrait arriver samedi.
Avec qui plus est l'espoir de battre un record. Comment Pascal s'est-il préparé? Comment la performance sportive peut aider à surmonter un traumatisme physique ou psychique? Nous serons à 5h45 avec le guide et éducateur spécialisé kayak qui a participé à toute sa préparation.
Enfin, on terminera avec votre partition.
Je vous dresse le décor des barreaux, des gardiens armés, 2000 prisonniers et Johnny Cash. I hear the train a-comin', it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. Johnny Cash et son concert à la prison de Folsom enregistré il y a 13 exactement 54 ans, la partition à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme et avouez qu'avec Johnny Cash pour conclure, il a fière allure ce programme. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Est-ce que la météo a fière allure ce matin?
Bah il faut s'habiller. Ah, c'est-à-dire qu'on va pas mettre les t-shirts Johnny Cash, on va mettre une petite doudoune par-dessus aujourd'hui parce qu'on a de nombreuses gelées encore dans le centre, le nord-est, le sud-ouest et même jusqu'en Provence. Ce sont des temps température tout juste de saison. On a moins 7 à Manosque et à Rodez ce matin, moins 6 à Clermont-Ferrand. Pensez à partir un petit peu plus tôt, il va falloir gratter les pare-brises avec moins 5 à Saint-Étienne et Albi, moins 4 à Lyon et Montauban, moins 3 à Strasbourg, moins 2 à Grenoble, moins 2 à Bordeaux, moins 1 à Montpellier, un petit degré pour Paris et 5 à Brest. Alors cet après-midi, c'est frais aussi avec 2 degrés à Lons-le-Saunier, 5 à Paris et Lille, 10 à Biarritz et 15 à Nice. Alors dans le ciel, on a encore pas mal de brouillard ce matin sur les Hauts-de-France, la Normandie, les Ardennes, le Poitou, l'Auvergne-Rhône-Alpes, sur la vallée de la Garonne, en Alsace, beaucoup de brouillard givrant dans l'est du pays. Un peu de patience parce que cet après-midi, ça fait longtemps que j'avais pas vu une carte de France comme ça. On a un soleil radieux sans aucun nuage pour quasiment tout le monde. Il y a 2-3 nuages gris qui traînent sur la Picardie. C'est tout.
Bon, eh bien, écoutez,
soleil pour tout le monde.
Nous voilà ravis. Merci beaucoup Anissa Dadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Avoir des enseignants, des surveillants, des CPE, mais aussi ce qu'on appelle les personnels de l'encadrement, par exemple des chefs d'établissement, c'est extrêmement rare.
Vous l'entendez, toutes les professions de l'éducation nationale en grève aujourd'hui contre le protocole sanitaire à l'école, jeudi noir en perspective, trois quarts des enseignants absents, la moitié des établissements fermés, un mouvement qui s'annonce sans précédent. Les sénateurs à majorité de droite adoptent en première lecture le projet de loi instaurant le pass vaccinal, feu vert cette nuit avec des modifications. On fait le point dans un instant. Et puis cette scène surréaliste hier en Coupe d'Afrique des Nations lors du match Tunisie-Mali. La fin de la rencontre a été sifflée 3 fois par l'arbitre. Le Mali l'emporte, la Tunisie se sent flouée. Que s'est-il passé exactement? Récit de cette rencontre chaotique en fin de journal.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. La grille reste fermée ce matin pour la moitié des écoles françaises. Les trois quarts des enseignants débrayent. Jeudi noir dans l'éducation nationale contre le protocole sanitaire mis en place. Même la Fédération des parents d'élèves appelle les familles à ne pas amener leurs enfants à l'école en signe de protestation. Louise Salé, la journée s'annonce historique.
Oui, c'est une très large union. Une dizaine de syndicats du primaire et du secondaire dénoncent ensemble la gestion de la crise sanitaire et pas seulement des organisations enseignantes. C'est ce qui rend cette mobilisation unique. Sophie Vénétité est secrétaire générale du syndicat SNES-FSU.
On va avoir des enseignants, des surveillants, des CPE, mais aussi ce qu'on appelle les personnels de l'encadrement. Par exemple, des chefs d'établissement, c'est extrêmement rare. Hein. On a aussi des inspecteurs qui vont faire grève et ça aussi, c'est inédit.
Tous ces syndicats demandent des comptes au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer pour avoir changé 3 fois de protocole en 8 jours, pour avoir clarifié ces nouvelles règles dans les médias avant de les détailler au corps enseignant, mais aussi pour le manque d'équipements de protection. Karim Bacha est directeur d'école en Seine-Saint-Denis.
Les capteurs de CO2, les purificateurs d'air, des masques FFP2, ce sont des choses qui sont connues, qui sont réalisables, qui sont demandées depuis un bon moment et on est à presque 24 mois de pandémie et on a l'impression de gérer la situation comme si le virus était arrivé il y a 2 mois.
Les professeurs n'ont par exemple toujours pas de masques chirurgicaux. Le Premier ministre Jean Castex a promis d'en livrer avant la fin du mois de janvier.
Merci Louise Salé.
Et on reviendra sur ce malaise dans l'éducation nationale à 6h10 avec notre invité Olivier Flipeau, directeur d'une école du Val d'Oise et par ailleurs délégué du syndicat des enseignants UNSA.
C'est aujourd'hui aussi pendant cette grève dans l'éducation qu'Emmanuel Macron doit s'adresser aux universitaires en clôture du congrès de la conférence des présidents d'université. L'allocution est prévue en visio à 17h30 face à des présidents de fac réunis à la Sorbonne.
Ça y est, c'est fait. Le Sénat, dominé par la droite, vient d'adopter le projet de loi instaurant le pass vaccinal.
Nombre de votants 338. Nombre de suffrages exprimés 312. Pour l'adoption 249 contre 63, le Sénat a adopté.
Gérard Larcher, le président du Sénat, cette nuit vers 2h30. Donc, le projet de loi instaurant le pass vaccinal est adopté. Alexis de La Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi toute la nuit les débats. Les sénateurs donnent donc leur feu vert avec tout de même 3 modifications plutôt importantes du texte.
Oui, premièrement, le Sénat a refusé de transformer les cafetiers et restaurateurs en agents de la force publique. Le contrôle des pièces d'identité en plus du pass n'est pas autorisé, estimant que seule la police est formée au contrôle des citoyens. Pas question non plus d'un pass vaccinal pour les mineurs dès 12 ans, le Sénat le veut uniquement pour les majeurs, mais le pass sanitaire est maintenu pour les 12-17 ans. Et enfin, une modification majeure, en dessous de 10 000 hospitalisations, le pass vaccinal s'éteint automatiquement. Cependant, il sera maintenu dans les départements où la vaccination est inférieure à 80% de la population éligible. Et selon nos informations, cette dernière clause sera la seule conservée par le gouvernement lors de la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui a lieu aujourd'hui pour essayer de trouver un consensus entre les deux chambres. Mais je vous rappelle que sans le consensus, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot.
Merci Alexis de La Fontaine, journaliste au service politique d'Europe 1.
5 heures passées de 5 minutes bientôt sur Europe 1. On en vient au procès des attentats du 13 novembre. Où l'audition de Mohamed Abrini s'est poursuivie.
Oui, c'est celui qu'on appelle l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Il a encore été entendu. Mardi, il justifiait les attentats. Hier, changement de ton. Gladys Laffitte, les juges l'interrogent sur des faits précis et lui reste évasif, voire esquive.
Oui, face aux salves de questions précises, l'accusé a dit ne plus se souvenir, ne pas aimer les détails. Mohamed Abrini cherchait parfois longuement la bonne réponse, à tel point que Salah Abdeslam, assis directement à côté de lui, semblait les lui souffler. « Ce n'est pas à vous que je pose les questions, votre tour viendra », l'a vite repris le président. Les réponses de son ami d'enfance n'ont en tout cas pas convaincu hier. Il était question d'un mystérieux voyage en Angleterre à l'été 2015, des repérages selon les enquêteurs. À l'appui, cette photo de Mohamed Abrini devant le stade de foot de Manchester. Mais quand on est arrêté dans une affaire comme ça, on imagine toujours le pire, a justifié l'accusé. Peut-être parce qu'il y a eu un attentat au stade de France, a avancé prudemment le président. Rien de tout cela pourtant, a assuré et souvent excédé le belgo-marocain. S'il est allé en Angleterre, c'est pour récupérer de l'argent pour le compte d'Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats. Une mission confiée en Syrie, où Mohamed Abrini a assuré n'avoir pas combattu pendant ses 9 jours sur place.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Aujourd'hui, la cour doit entendre Osama Krayem, suédois suspecté d'avoir participé aux attentats de Bruxelles. Cela fait depuis le 25 novembre qu'il ne s'est plus présenté à l'audience.
À Londres, apportez vos bouteilles, on va profiter du beau temps.
Oui, c'est le contenu de l'invitation à la Garden Party qui pose problème à Boris Johnson en ce moment, appelé à démissionner. Pourquoi ? Parce que cette fête, elle a été organisée à la résidence du Premier ministre britannique en plein confinement en mai 2020. 100 personnes dans les jardins du du 10 Downing Street. Un scandale, Boris Johnson avoue. Il s'excuse même devant la Chambre des communes.
Je veux présenter mes excuses. Je sais que des millions de gens ont fait des sacrifices extraordinaires durant ces 18 derniers mois. Et je comprends leur colère contre moi quand ils voient qu'à Downing Street, les règles ne sont pas suivies correctement. Nous avons fait des erreurs et j'en prends la responsabilité.
Des excuses insuffisantes et trop tardives, juge l'opposition qui souhaite sa démission comme les deux tiers des Britanniques.
La France exige la libération immédiate de Fariba Adelra, incarcérée à nouveau à Téhéran.
Oui, le cauchemar continue pour la chercheuse franco-iranienne condamnée pour atteinte à la sécurité nationale, retenue en Iran depuis 3 ans, placée sous résidence surveillée en juin 2020. Hier, coup de théâtre, Fariba Adelra est revenue en prison, de quoi fragiliser davantage la confiance entre Paris et Téhéran, prévient le Quai d'Orsay. Réaction de Béatrice Hibou, politologue, membre du comité de soutien de la chercheuse.
Nous attendions absolument pas à ça. Nous n'avons aucune idée, pour l'instant, des raisons qui ont amené à remettre en cause ce jugement. Nous sommes extrêmement inquiets, aussi bien pour sa santé physique que pour son moral. Ce qu'elle risque en revenant en prison par rapport à la situation du Covid, c'est que les malades sont très mal soignés. La situation est très délicate, et ce, d'autant plus que Fariba est toujours tout de même assez fragile après sa grève de la faim. Donc nous sommes effectivement assez abasourdis, sous le choc. Nous attendons une mobilisation continue des autorités françaises pour qu'elles nous ramènent Fariba Adelra en France. C'est une chercheuse française qui doit pouvoir retrouver ses activités de recherche.
Des propos recueillis par Thibaut Hue pour Europe 1. Un rassemblement de soutien est organisé tout à l'heure devant Sciences Po Paris dans le 7e arrondissement à 16h.
Surréaliste, pour une fois, le mot n'est pas galvaudé pour qualifier le match Tunisie-Mali hier en Coupe d'Afrique des Nations.
Du grand n'importe quoi sur le terrain, victoire du Mali 1-0 et c'est sans doute une première dans l'histoire du foot. Jean-François Pérez, l'arbitre a sifflé 3 fois la fin du match.
Oui, il restait 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de ce Tunisie-Mali quand soudain, contre toute attente, l'arbitre zambien siffle la fin du match. Les deux équipes sont sidérées. Non seulement il restait 5 minutes, mais les 9 remplacements et les 2 interventions de la vidéo auraient dû ajouter plusieurs minutes de temps additionnel. Après une brève discussion, le jeu reprend. Mais une fois encore, avant même la fin du temps réglementaire, Gianni Sikazoué porte le sifflet à sa bouche. Cette fois, il ne revient pas sur sa décision. 1-0, les Maliens lèvent les bras au ciel, les Tunisiens enragent. Nouveau coup de théâtre en pleine conférence de presse. Les officiels annoncent que les joueurs doivent revenir sur la pelouse pour disputer les 3 dernières minutes. Les Maliens s'exécutent, pas les Tunisiens. Dans l'intervalle, on a perdu l'arbitre. C'est son suppléant qui constate l'absence des Tunisiens et siffle pour la 3e fois la fin du match dans une ambiance surréaliste. 3e fois et peut-être pas la dernière. Les dirigeants tunisiens ont déposé réclamation. Hors de question pour eux de reconnaître le résultat de ce match inachevé et déjà entré dans la légende de la Coupe d'Afrique.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, début aujourd'hui de la 2e journée des phases de poule. Le Cameroun, pays hôte, affronte l'Éthiopie à 17h.
Journal qui termine à l'heure. Belban Le Prince, merci beaucoup Elban.
Il est 5h10 et c'est l'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 409 Gangster d'Avanès. Il alterne avec réussite le trot attelé et le trot monté et la facilité avec laquelle il vient de s'imposer à l'attelé le 26 décembre sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et sur le même parcours que celui qu'il empruntera cet après-midi me permet de vous affirmer qu'il devrait pouvoir remporter une nouvelle victoire et effectuer ainsi un retour gagnant au trot monté. Notez bien, pour Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 9, Gangster d'Avanès.
Gangster d'Avanès, le numéro 9. Merci beaucoup Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Nous on revient très vite, dans quelques secondes, à peine, pour le pressing du jour.
Les 3 histoires de votre revue de presse au menu, le retour des bimbos des années 2000, un nouveau jeu en ligne qui fait fureur et la police allemande prise la main dans le sac. A tout de suite.
Europe 1, Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On entend souvent parler des bienfaits de la méditation pour nous libérer des pensées négatives. Mais vous saviez, Julia, qu'elle est aussi excellente pour notre cerveau?
Bah oui, Mélanie, c'est même prouvé scientifiquement. Ce sera notre sujet du jour dans Bienfaits pour vous.
Bienfaits pour vous.
Alors à tout à l'heure, dès 11h sur Europe 1.
Ombline
Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h11, le pressing de ce 13 janvier. Nous sommes avec Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Ambline, bonjour à tous.
On commence avec les une de vos journaux qui, sans surprise, titrent tous quasiment sur la grève dans les écoles. C'est la faute à Blanquer. Voilà ce que l'on peut lire en une de Libération avec comme illustration une caricature très drôle, il faut l'avouer, du ministre avec un bonnet d'âne. Bonnet composé de deux masques FFP2 sur la tête. Blanquer piégé par les contraintes sanitaires, ça c'est le titre un peu plus sobre du Figaro. Les injonctions contradictoires du gouvernement pour maintenir les cours en présentiel font du ministre la cible des enseignants, écrit le quotidien. En attendant, c'est le grand stress des autotests, c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France, que ce soit pour les parents qui tentent désespérément d'en obtenir dans les pharmacies ou pour les enfants qui détestent les subir. Les autotests sont un calvaire. Voilà pour les unes. Ombline, quel article avez-vous retenu ce matin ?
Comme disait Nietzsche, tant et oui, on ne signe pas assez.
C'est un télo ce matin.
Vous n'êtes pas sur France Culture.
Tant est aussi longtemps, tant est aussi longtemps que l'on sait recommencer, rien n'est totalement perdu. Oui, la vie est un éternel recommencement et cela a quelque chose de rassurant. Ce ne sont pas les adeptes du piercing diamanté au nombril qui vont me contredire. Je vous conseille donc cet article du Figaro, la page Figaro Style, qui est un petit bonbon au sucré, qui pose cette question essentielle. La bimbo des années 2000 est-elle de retour à l'ère de MeToo ? Vous allez être peut-être choqué, opérer un mouvement de recul. Et pourtant, dites-vous bien que les philosophies de vie, malgré les 20 ans d'écart, ne sont pas si éloignées. Les années 2000, c'est l'art d'assumer, de porter des vêtements tout en ayant l'air dénudé. C'est la féminité faite reine. Aujourd'hui, la fille pseudo-facile est tout sauf une blonde et cervelée et filiforme, mais un modèle d'acceptation de soi. Bien dans son pantalon serré, taille basse, couleur camouflage, en 2000, comme en 2022. Alors, petit flashback, il y a 20 ans, on aimait les jupes très courtes, les strass, les décolletés lacés. Le sweep à zip, le cardigan format boléro. Vous savez, il était très très court. Il s'arrêtait au niveau des côtes. Pas de réseaux sociaux, mais l'avènement de la presse people et de la télé-réalité avec la sexy Loana. 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on voit ? Britney Spears en une depuis qu'elle a été libérée de sa tutelle. Un album posthume de la chanteuse Alia disparu tragiquement dans un accident d'avion en 2001. Il devrait sortir prochainement. Et Jennifer Lopez qui file le parfait amour avec Ben Affleck, son boyfriend en 2002, puis son fiancé avant la cassure 2 ans plus tard. Rien n'a changé, même la mode l'a compris. Et sur les podiums, les créateurs ont le bon goût de ressortir les rats de cou, les jeans léopards, les micro-gilets qui se ferment à l'aide d'une épingle à nourrice au milieu de la poitrine. Ah, ça vous parle ? Qu'est-ce qu'on a de plus finalement aujourd'hui ? Bon, Instagram, d'accord, et cette mouvance nostalgique Y2K, hein, comprenez année au singulier 2000 et avec plus de 2,5 millions de publications. Qu'est-ce qu'on a de moins ? Poussez un ouf de soulagement mes amis, le baggy avec le string qui dépasse. Voilà, le baggy et le string ça revient pas, hein. Heureusement.
J'ai envie de dire, la vulgarité est un éternel recommencement.
Ah, que dites-vous ? Alors attendez, pardon.
C'est pas du Nietzsche, c'est du Julien Pierce.
Attendez, alors je vous cite la dernière phrase, pardon, de l'article, c'était pas prévu, mais je l'ajoute. On peut tout à fait être vulgaire et avoir beaucoup d'allure, mon cher Julien.
Bon,
le retour de la bimbo des années 2000, ou devrait-on dire la revanche de la bimbo des années 2000 dans le Figaro ?
Ça sent le vécu, je sais pas pourquoi. Martin,
alors, est-ce que vous connaissez Wordle, Ombine, Julien ?
Pas du tout.
Wordle. Alors, c'est un jeu en ligne avec un principe très simple, hein, 5 lettres, 6 essais et un mot à découvrir, hein, ça vous rappelle forcément quelque chose.
Et oui, les années 2000.
Exactement, encore les années 2000, en moins vulgaire. Et oui, Motus.
Pas alors, Motus vulgaire.
Le jeu télévisé diffusé sur France 2 pendant près de 30 ans et animé par Thierry Beccaro. Et bien avec Wordle, hein, c'est le même principe, mais ça se passe sur Internet. Il y a un mot à découvrir chaque jour. Et en cas d'échec, on doit attendre le lendemain. Les Américains en sont complètement fous. Ils publient leurs résultats directement sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu passer sur Twitter, hein, ces carrés verts et jaunes. Et bien c'est Wordle. Depuis le lancement du jeu, hein, il y a 2 mois, la plateforme est passée de 90 joueurs par jour à plus de 300 000 selon le New York Times.
Ah oui.
Il y a même des stars qui s'y sont mises, hein, et des marques qui proposent leurs propres énigmes.
Alors après Thierry Beccaro, à qui on doit ce retour de Motus ?
Eh bien un ingénieur informatique, hein, il s'appelle Josh Wordle, il vit à New York et il a créé Wordle tout simplement pour passer le temps, hein, quand vous attendez le bus ou votre rendez-vous chez le dentiste. Il n'a d'ailleurs pas prévu de monétiser son jeu, hein, c'est totalement gratuit. Attention tout de même, hein, certains veulent surfer sur le phénomène et ont créé des copies payantes. Méfiez-vous donc si vous voulez essayer.
Mais il faut payer anglais ?
Il faut parler.
Parler, pardon.
Oui, la version originale du jeu est en anglais. Mais vu le succès, il a évidemment été adapté dans d'autres langues, et notamment le français. Hein, cette variante en ligne est en ligne depuis samedi. Hein, elle s'appelle Sutom, anagramme de Motus, évidemment. Alors, c'est le même principe que pour Wordle, hein, un mot à deviner, 6 essais. Mais cette fois, les mots sont plus longs parce que Motus, c'est quand même un niveau au-dessus. Plaisante Jonathan, l'ingénieur à l'origine du projet. Un jeu là aussi gratuit et qui commence à trouver son public. Hein, déjà plus de 1300 tweets de résultats Sutom mardi. Et hier, hein, les serveurs commençaient déjà à saturer, selon le créateur. Wordle, le nouveau jeu en vogue sur les réseaux sociaux, c'est à retrouver sur le site du Huffington Post.
Merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour ma part un article à lire sur le site du Monde, article qui nous emmène en Allemagne, à Mayence plus précisément, où la police fait l'objet depuis quelques jours de très vives critiques. Tout commence le 29 novembre dernier, dans un bar de la vieille ville. La soirée, malheureusement, vire au drame quand un individu fait une chute mortelle en tombant du premier étage de l'établissement. La police ouvre bien évidemment une enquête, mais est très vite confrontée à une difficulté, identifier les éventuels témoins de la scène. Les jours passent et force de constater que l'enquête est au point mort. Les policiers n'arrivent pas à retrouver les clients du bar présents au moment du drame, et ce malgré un appel à témoins lancé dans la presse locale. Et c'est là qu'un policier a une idée. Pourquoi ne pas utiliser les données de Luca, l'équivalent allemand de l'application Tous Anti-Covid qu'on a tous sur nos téléphones portables. Ce n'est pas bête après tout, vu que cette application de traçage est exigée notamment à l'entrée des bars et restaurants. Les personnes présentes ce soir-là ont toutes, en théorie, flashé le QR code à l'entrée de l'établissement. Leur nom, leur numéro de téléphone, leurs adresses et leur géolocalisation, toutes ces données dorment sur un serveur. Il serait bête de ne pas s'en servir. Le problème, vous vous en doutez, parce que problème il y a, c'est que ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins sanitaires et non à des fins policières. C'est le contrat tacite proposé dans tous les pays, d'ailleurs, depuis le début de la pandémie. Si vous acceptez cette collecte d'informations, on vous donne en échange l'assurance qu'elles ne serviront qu'en cas de contamination. Kein problème pour nos fins limiers allemands. Avec l'aide du parquet de Mayence, ils ont sciemment contourné la loi, celle-là même qu'ils sont censés faire respecter. C'est ainsi que pour obtenir les précieuses données, nos enquêteurs ont sollicité l'agence de santé locale. Cette dernière, tenez-vous bien, a accepté de prétendre auprès de l'entreprise qui gère l'application qu'un cas d'affection s'était déclaré dans le bar le fameux soir du drame. Et voilà comment, en deux clics et de manière totalement illégale, les policiers ont finalement pu avoir accès aux données, ce qui leur a permis au total de contacter 21 personnes présentes au moment de la chute mortelle. L'affaire aurait pu rester confidentiel si un enquêteur n'avait pas reconnu auprès d'un des témoins qu'il l'avait identifié grâce à l'application anti-Covid. Voilà comment le scandale a éclaté et il fait, il faut le dire, beaucoup de remous en Allemagne où l'on est beaucoup plus à cheval que nous sur le respect des données personnelles. Une enquête a été ouverte et le parquet de Mayence a présenté ses excuses. Quand la police allemande est prise la main dans le sac à données personnelles, c'est-à-dire sur lemonde.fr.
Ils ont dit qu'il y avait un cas positif faux.
Ils ont totalement menti en fait. Ils ont totalement menti à l'entreprise qui gère et qui a créé cette application
pour y accéder,
pour
quoi.
Pouvoir accéder à ces données. Ouais.
C'est rassurant tout ça. Merci beaucoup. C'est tout pour le pressing, Martin. Dans 40 minutes, on se retrouve pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h20 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Le retour de l'information avec Alban Le Prince.
Et on vient de l'apprendre à Melbourne où Novak Djokovic, le numéro 1 mondial du tennis, est toujours menacé d'expulsion. Selon notre correspondante sur place, le tirage au sort de l'Open d'Australie vient d'être reporté sans aucune explication. Des surveillants aux profs en passant par les inspecteurs et directeurs. Grève massive et historique aujourd'hui dans l'éducation nationale contre le protocole sanitaire. La moitié des écoles restent tout simplement fermer les trois quarts des enseignants débrayent. Le Sénat a dit oui, feu vert cette nuit au projet de loi instaurant le pass vaccinal. Les élus à majorité de droite ont modifié certains points comme son extinction dès lors que le nombre d'hospitalisations liées au Covid passe sous les 10 000 et prévoit de le réserver uniquement aux personnes majeures. Garde à vue prolongée par la procureure d'Annecy pour le suspect entendu depuis hier dans l'affaire de la tuerie de Chevaline, un quadruple meurtre jamais élucidé qui s'est produit il y a près de 10 ans en Haute-Savoie.
Les initiatives en France, ces petites et grandes actions qui font bouger les lignes, c'est chaque matin à 5h21. Et aujourd'hui, Julien, on prend la direction de la Bretagne.
Bonjour Gaëlle Lenoine.
Bonjour.
Merci infiniment de nous accorder quelques minutes. Vous êtes la fondatrice de Marguerite et Compagnie, une jeune entreprise qui prend un malin plaisir à bousculer les règles. Qu'est-ce que vous faites exactement ?
Alors, j'ai inventé un distributeur de mise à disposition gratuite de tampons et de serviettes et des produits qui sont 100% bio et 100% biodégradables pour le respect de notre santé et de l'environnement.
Ça ressemble un peu au distributeur de préservatifs qu'on peut trouver dans la rue ?
Ouais, on peut comparer ça tout à fait à ça, sauf que là, c'est une mise à disposition gratuite pour les utilisatrices.
Ouais. Vous proposez quel type de protection périodique exactement ?
Alors, le distributeur contient 295 produits pour les collectivités ou 75 pour les entreprises. Il y a des tampons sans applicateur et avec applicateur, et des serviettes. Et ce sont les produits de mon partenaire Natracare, qui est le leader mondial des produits menstruels bio.
Des tampons et des serviettes, je le précise, 100% bio parce que c'est important, c'est-à-dire garantie sans résidus de pesticides ou encore de chlore ?
Voilà, sans aucun résidu, sans parfum, sans perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a zéro plastique. Et c'est ça qui m'avait vraiment révoltée quand j'ai créé Marguerite, c'était la composition des tampons et des serviettes classiques.
Oui, c'était une évidence d'aller sur ces produits-là qui, contrairement à ceux qu'on peut trouver par exemple dans la grande distribution, ne sont pas nocifs pour le corps de la femme.
Oui, parce que moi j'étais orthophoniste en neurologie, en cancérologie pendant 18 ans, donc absolument rien à voir avec le milieu de l'entrepreneuriat. Et c'est en lisant en 2017 les études sur la composition que ça m'a clairement révoltée. Je me suis dit, mais c'est vraiment pas juste, c'est un achat contraint et c'est des produits qui sont potentiellement toxiques et puis assurément polluants.
Alors vous l'avez dit, ces produits, c'est pas vous qui les fabriquez, c'est pas vous qui les avez conçus, c'est un de vos partenaires. En revanche, vous avez confié le conditionnement et l'expédition à des travailleurs particuliers en situation de handicap, c'est bien cela ?
Oui, parce que pour moi, c'était donc le concept, c'était un distributeur de mise à disposition, mais je voulais que ce soit le plus simple possible d'utilisation et puis surtout que le remplissage soit hyper sécurisé au niveau sanitaire. Et donc, j'ai inventé des recharges. Je glisse dans les distributeurs, c'est hyper simple d'utilisation. Et ces recharges sont conditionnées par des personnes en situation de handicap de l'Association des paralysés de France. Donc, on a 3 sites en France qui conditionnent nos recharges toute la journée.
Votre entreprise a bientôt 4 ans, 14 emplois créés, si je ne me trompe pas. Et combien de distributeurs installés ?
Alors, on a 2500 distributeurs installés. On est dans plus de 500 établissements et dans 80 entreprises, puisqu'on commence à installer aussi dans les entreprises au titre de la RSE, de l'égalité femmes-hommes, de la santé au travail. Et on est dans 4 pays, puisqu'on se développe vraiment beaucoup à l'international. On vient de gagner un marché pour les établissements scolaires du canton de Vaud, en Suisse, par exemple.
Et on en trouve aussi dans les universités françaises, ces distributeurs ?
Oui, c'est collèges, lycées, universités, la plupart des établissements où on trouve les distributeurs. Et puis là, il y a eu une grande nouvelle en fin d'année. Tous les lycées de Bretagne vont être équipés sous peu des distributeurs. Donc 71 000 lycéennes vont avoir à disposition gratuitement les meilleurs produits au monde.
Ce qui est effectivement une belle avancée. Je reviens aux universités où, je le précise, les protections périodiques sont distribuées gratuitement aux étudiantes depuis la rentrée, mesure prise pour tenter d'endiguer ce fléau de la précarité menstruelle qui touche plus d'une femme sur 10. C'est pour ça aussi que vous avez décidé de créer Marguerite et Compagnie ?
Ouais, alors c'était une dimension qui était dès le début, effectivement. Je fais des dons aussi, je suis mécène d'une association à Paris qui distribue des kits d'hygiène aux femmes SDF. Donc évidemment, ce terme précarité menstruelle, je l'utilisais depuis 4 ans. Tout le monde ouvrait des grands yeux, c'était très peu connu ce terme. Maintenant, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc ces distributeurs, évidemment, permettent d'une façon hyper simple de résoudre ce problème de la précarité menstruelle. Et puis, pour aller un tout petit peu au-delà, ça nous est tout arrivé, précaire ou pas, d'être en galère. Les distributeurs soulagent énormément quand même les femmes dès qu'on en trouve sur leur lieu de travail ou sur leur lieu d'études.
Alors vous l'avez dit, ces protections sont distribuées gratuitement pour les utilisatrices. Mais quel est le business model ? Qui paye au final ? C'est les entreprises sous la forme d'un abonnement par exemple ?
Voilà, ce sont les entreprises, les établissements scolaires ou même de plus en plus de communes aussi. On est dans une vingtaine de communes en France. Je cite Annecy ou alors Évian. La maire d'Évian a gagné le prix de la commune sociale de France au dernier congrès des maires grâce à l'installation de nos distributeurs, une chose dont j'étais très fière. Et ce sont les établissements ou les collectivités qui décident de couvrir ces besoins-là et qui sont évidemment moindres quand on les achète collectivement en fait.
Le choix de Marguerite dans le nom de votre entreprise, c'est un hommage à de grandes figures féministes ?
Exactement, au moment de créer mon entreprise, je voulais trouver absolument un nom de femme et puis une idée de valeur commune, de valeur de santé, d'environnement, de solidarité. Et donc, j'ai pensé à des autrices, puisque je suis une grande lectrice, et j'ai pensé à Yourcenar, Duras, mais aussi Marguerite Durand, qui était une grande féministe de la fin du 19e. Puis Loé Compagnie, c'était vraiment voilà, cette idée de valeur en commun.
Merci beaucoup Gaëlle Lenoine de nous avoir présenté votre entreprise Marguerite et Compagnie, donc c'est son nom, et ses distributeurs de protection périodique que l'on trouve maintenant un peu partout et même à l'étranger. Bravo à vous pour cette initiative et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup, bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, et prudence si vous allez prendre la route. Anissa Haddadi va nous dire dans un instant s'il y a du brouillard à l'horizon. En tout cas, restez avec nous si vous voulez élargir votre horizon gustatif, hein, pour commencer avec l'excellente cuisine d'Olivier Pouls.
J'ai plutôt la truffe noire du Périgord dont la saveur a imprégné les œufs avant d'être battue en omelette ou juste quelques copeaux parsemés sur des pâtes fraîches. Olivier nous gâte, il nous promet qu'on peut déguster de la truffe sans se ruiner. Rendez-vous dans 20 minutes.
Avant cela, un défi sportif pour faire connaître le syndrome du stress post-traumatique chez les militaires.
Un défi qui est en train de relever Pascal, membre des commandos parachutistes. Pascal descend la Loire en kayak, en totale autonomie, parti de Roanne lundi. Il compte arriver à Saint-Nazaire samedi matin, 750 km parcourus. Un moyen de surmonter cette blessure de l'âme et de parler de ce mal que connaissent de nombreux soldats de retour de mission. On sera avec le guide et éducateur spécialisé kayak qui l'a aidé à se préparer pendant plusieurs mois.
La météo, Anissa Haddadi, est-ce qu'il y a du brouillard alors ?
Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils sont très épais. Ce matin, d'ailleurs, Fabrice, notre réalisateur qui habite près du parc avec la souris aux grandes oreilles, a eu beaucoup de difficultés ce matin sur l'autoroute A4 jusqu'aux portes de Paris. Ça a été très compliqué. Il n'y a quasiment pas de visibilité. Par endroit, elle est réduite à 100 mètres. Alors, elle concerne de nombreuses régions. On a du brouillard sur les Hauts-de-France, sur la région parisienne, certes, dans le Grand Est, où en plus, avec les températures négatives, les brouillards sont givrants. On a du brouillard également en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Poitou et en Occitanie, près de la vallée de la Garonne. Donc, dans toutes ces régions, ce matin, il va falloir partir un petit peu plus tôt, il va falloir être prudent sur les routes parce que la visibilité est réduite. Mais elle est là la bonne nouvelle. Ces brouillards, ces nuages bas matinaux vont se lever pour laisser place à un soleil radieux à la mi-journée. On va vraiment avoir un après-midi très agréable et très ensoleillé. Le Mistral va se calmer même cet après-midi. Et je vous rappelle qu'on a toujours 5 départements en vigilance orange crue. La Garonne et ses affluents débordent encore par endroits aujourd'hui. Moins 7 à Manosque, couvrez-vous. Moins 6 à Clermont-Ferrand, moins 5 à Aurillac, moins 3 à Belfort, moins 1 à Montpellier, un petit degré à Paris et 5 à Saint-Brieuc ce matin.
Une belle et vraie journée d'hiver donc. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce jeudi, la grève à l'éducation nationale. Près de la moitié des écoles devraient rester fermées aujourd'hui. Mouvement social sans précédent de par son ampleur. Les trois quarts des enseignants devraient se mettre en grève aujourd'hui. Le protocole sanitaire et les multiples changements de cap sont dans le collimateur des grévistes. Ils réclament aussi davantage de moyens pour freiner l'épidémie dans les classes. Dans ce journal, Leclerc casse les prix de la baguette de pain et provoque la colère des boulangers. Et puis l'ouverture du championnat d'Europe de handball en Hongrie. France-Croatie ce soir, des Bleus diminué, mais toujours favori.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et du journal à 5h30, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Certains parlent déjà d'un mouvement historique. Les premières estimations donnent en tout cas le ton. La moitié des écoles devraient rester fermées aujourd'hui. Les trois quarts des enseignants pourraient se déclarer grévistes. De la base au sommet, la colère et le ras-le-bol ont rarement été aussi bien partagés, tous unis contre le protocole sanitaire. Des directeurs d'établissement et même des inspecteurs d'académie vont descendre dans la rue. Illustration à Toulouse avec Benjamin Péter.
C'est un casse-tête tous les jours parce que les moyens de remplacement ont été supprimés depuis des années.
La désorganisation liée au Covid, Éric Nicolet, qui est inspecteur de l'éducation nationale, doit y faire face en permanence. Dans sa circonscription de Lyon, pour lui, ce dogme de garder l'école ouverte se fait au détriment des élèves.
L'école est ouverte, mais les classes sont vides. Nous avons une perte d'heures de cours qui est vraiment très très importante. Ceux qui vont en pâtir encore plus, ce sont les élèves qui sont déjà en difficulté. Ils n'auront pas pu avoir l'enseignement de qualité qu'ils auraient pu avoir si nous avions eu un protocole plus simple.
Des collègues inspecteurs exaspérés, il en a eu beaucoup au téléphone. Ils seront nombreux en grève aujourd'hui. Une situation inédite. Le constat d'une école dégradée, Thierry Pajot le fait également. Depuis 25 ans qu'il dirige une école à Nice, il va faire grève pour la première fois.
avec ces protocoles successifs qui font que des enfants partent, des enfants reviennent. La dernière fois que mes 28 élèves étaient présents dans ma classe, nous étions le 12 octobre. Nous travaillons au compte-gouttes et c'est difficile cette année de faire les apprentissages.
Il lui voudrait que le gouvernement assume clairement cette stratégie de faire circuler le virus dans les écoles, mais qu'en contrepartie, les personnels soient mieux protégés avec des masques FFP2 et des capteurs de CO2.
Et les changements répétés de règles et l'absence de communication ont provoqué l'exaspération du corps enseignant. L'absence de moyens est régulièrement critiquée par les grévistes qui réclament notamment des capteurs de CO2 dans les salles de classe. C'est bien, mais selon certains scientifiques, il faudrait plutôt installer des purificateurs d'air plus efficaces contre le virus. Jean-Paul Hamon est le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
Le capteur de CO2, ça dit tout simplement qu'il faut ouvrir les fenêtres en moyenne 10 minutes par heure. Alors donc, en ce moment, ouvrir les fenêtres dans les écoles, il commence à faire quand même froid. Les gamins, il va falloir qu'ils soient en classe avec un bonnet et un anorak. Tout ça, c'est pas très simple quand on écrit, et puis c'est pas très confortable quand on reste en classe. Le capteur de CO2, c'est ça. On n'en a pas besoin pour ouvrir une fenêtre 10 minutes toutes les heures. Par contre, le purificateur d'air, ça aspire l'air, ça détruit le virus par hyperoxydation et ça renouvelle l'air de la pièce, ça redonne un air purifié. Ça sécurise les classes et ça sécurise les petits commerces et ça sécurise les salles d'attente et ça sécurise les restaurants. Donc franchement, j'arrive pas à comprendre comment le gouvernement n'a pas investi là-dedans.
Jean-Paul Hamon, le président d'honneur de la Fédération des médecins de France, il répondait à Louis Salé.
Le pass vaccinal obtient le feu vert du Sénat.
Texte voté par 249 voix contre 63, mais il comporte encore quelques modifications de taille. Le pass vaccinal s'éteindra automatiquement en dessous d'un seuil fixé à 10 000 hospitalisations. Disposition qui sera très probablement discutée tout à l'heure en commission paritaire. Le projet de loi repassera ensuite devant le Parlement.
Bonne nouvelle pour les habitants des Yvelines, le port du masque n'est plus obligatoire dans la rue.
Décision du tribunal administratif qui vient de suspendre l'arrêté préfectoral. Les juges estiment la mesure disproportionnée. Ils estiment aussi qu'elle porte atteinte aux libertés individuelles.
Peut-être une avancée dans l'enquête sur la tuerie de Chevaline 9 ans après les faits.
Un homme est toujours en garde à vue. Ce matin, les gendarmes veulent vérifier certains éléments de son emploi du temps avant, pendant et après les faits. Le 5 septembre 2012, 4 personnes, dont 3 membres d'une même famille, avaient été abattues de plusieurs balles. Aucune indication sur l'identité de la personne interrogée. Il s'agirait d'un témoin déjà entendu par le passé.
La baguette de pain à 29 centimes d'euros. Je répète, 29 centimes d'euros la baguette de pain. C'est l'opération commerciale des magasin Leclerc et elle ne plaît pas à tout le monde.
Ah non, les boulangers et les agriculteurs dénoncent une campagne démagogique alors que les prix du blé s'envolent sur les marchés. L'enseigne affirme vouloir lutter à sa façon contre l'inflation sur un produit symbolique, le pain. Un coup de pub qui ne mène à rien pour Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, est très remontée.
C'est une provocation de plus de Michel-Édouard Leclerc. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les consommateurs. Parce que ça veut dire que quand ils payent la baguette 60 ou 70 centimes d'habitude, Michel-Édouard Leclerc se fait des marges très confortables. Il se graisse les pattes sur le dos des consommateurs. Et puis c'est une mauvaise nouvelle pour la valeur des produits, la reconnaissance du travail. D'où vient la farine? Elle est française? Qui a-t-il écrasé pour pratiquer des prix comme ça? Il va marger sur qui? Sur les œufs, le lait? Il dit qu'il est accessible, mais il va faire un pays de consommateurs chômeurs. Il va ruiner bon nombre d'entreprises, pas seulement les agriculteurs, bien sûr, mais aussi les industriels, les fabricants de farine, les boulangers. Donc c'est proprement scandaleux. Et nous allons voir qu'est-ce que nous allons faire dans ces magasins, aller acheter des baguettes et les offrir au Resto du Cœur, dévaliser ces rayons. Franchement, c'est pas sérieux.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, avec Carole Ferry.
Très remontée. Aux États-Unis, la justice ouvre la voie à un procès contre le prince Andrew, le deuxième fils de la reine d'Angleterre, est accusé d'agression sexuelle.
Accusation en lien avec le scandale Jeffrey Epstein, du nom de ce financier condamné pour prostitution et mort en prison. C'est par son intermédiaire que le prince Andrew aurait rencontré Virginia Giuffre alors qu'elle avait 17 ans. Elle l'accuse de l'avoir agressée à de multiples reprises. Un juge américain estime donc que sa plainte est recevable, Alexis Guilleux.
Oui, la plainte n'est ni vague ni ambiguë selon le juge. Il n'y a donc pas de raison de la classer sans suite, comme le demandaient les avocats du prince Andrew. Le duc d'York est accusé par Virginia Giuffre. Elle avait 17 ans en 2001 et selon elle, le fils d'Elisabeth II l'aurait agressé sexuellement à 3 reprises dans 3 lieux différents. Londres, New York et les îles Vierges britanniques, archipel où Jeffrey Epstein, ami du prince, possédait une île et aurait accueilli sur place de nombreuses jeunes femmes. Andrew a toujours nié toute agression et affirme même ne pas se souvenir de celle qui s'appelait alors Virginia Roberts. Pourtant, des photos existent, une notamment montrant le prince et la jeune femme tout sourire se tenant par la taille. Il y avait un espoir côté Andrew faire annuler cette plainte car Virginia Giuffre a signé un accord avec Jeffrey Epstein en 2009. $500 000 contre un engagement, ne pas poursuivre l'homme d'affaires ou d'autres accusés potentiels dans l'entourage du financier. Le juge a finalement balayé cette requête des avocats du prince. Andrew a maintenant jusqu'à mi-juillet pour répondre à des questions sous serment. Si tous les recours sont épuisés, le procès pourrait se tenir à l'automne.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
On passe au sport avec l'ouverture du championnat d'Europe de handball en Hongrie. On a envie de citer l'équipe de France parmi les favorites, mais ce ne sera pas simple pour les Bleus.
Ah non, même s'ils sont champions olympiques en titre, les Français n'ont pas beaucoup de certitudes. La faute aux blessés, au virus qui a perturbé la préparation. Premier enseignement ce soir face à la Croatie pour le coup d'envoi de 7 euros. Axel May, la route qui mène au titre s'annonce en tout cas longue et compliquée.
Oui, d'abord parce que le handball est un sport joué avant tout sur le vieux continent et par conséquent l'Euro est considéré comme la compétition la plus dense, la plus difficile de toutes. Ensuite, les Bleus présentent une équipe plus jeune et remaniée entre les retraites des vétérans Lucas Ballot et Mickaël Guigou ou la blessure de Lucas Karabatic. Son frère Nicolas, le dernier grognard de la grande époque, celle où la France semblait invincible, a conscience des difficultés qui vont se présenter en Hongrie.
On a une équipe pas mal remaniée. Je pense que même avec cette équipe-là, on peut prétendre à un très bon résultat, mais c'est sûr que la donne a un peu changé. On est moins favori parce qu'on n'a pas vraiment l'équipe qu'on avait aux Jeux Olympiques.
Et puis les Bleus, comme d'autres équipes d'ailleurs, ont dû faire face à une préparation perturbée par des cas de Covid, rappelle l'international Quentin Mahé.
C'est une chose qui était un peu chaotique parce qu'on ne savait jamais est-ce qu'on va pouvoir continuer à poursuivre cette préparation sans pépin. Compliqué certainement, mais dans une vie de sportif, on est entre guillemets un peu habitué.
Côté ambiance, alors que partout ou presque en Europe, les stades sont soumis à des jauges ou même des huis clos, en Hongrie, les salles pourront faire le plein de spectateurs.
Axel May du service des sports d'Europe 1 France-Croatie, premier match de 7 euros à 20h30. Et puis en tennis, dénouement proche dans l'affaire Djokovic, menacé d'expulsion. On a appris il y a quelques minutes le report du tirage au sort de l'Open d'Australie.
Nous avons du retard, voilà ce que vient de déclarer l'AFP, un porte-parole de la Fédération australienne de tennis sans plus d'explications. C'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses hippiques, les pronostics du quintet. Thierry Léger, bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour ce quintet, le prix de la Côte d'Azur. Une très belle course au trot attelé, toujours très convoité. Et parmi les 16 partants, il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 9, Empire, bien engagé, à la limite du recul des 25 mètres et qui, je le sais, a été préparé de longue date en vue de cet objectif. On lui opposera les numéros 7, El Presidente, actuellement l'un des meilleurs trotteurs évoluant dans le Sud-Est et qui a souvent très bien réussi sur cette piste cagnoise. 15, Écureuil Génilou, le seul trotteur au second poteau qui me semble capable de rendre la distance de 25 mètres et 5 Eric The Hill qui vient de faire jeu égal à Vincennes avec mon favori Empire. Enfin les numéros 3, Esprit Mystique, 1 Pinto Bob, 2 Vikens High Hild et 6 Espoir du Marny ont eux aussi quelques arguments pour postuler à l'une des 5 premières places de ce quintet qui s'annonce particulièrement ouvert et difficile à déchiffrer. Mon pronostic, 9, 7, 15, 5, 3, 1, 2 et 6.
Des pronostics à retrouver sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Marie-José Pérec a appuyé sur l'accélérateur.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Il y a 10 ans, le 13 janvier 2012, avait lieu le naufrage du Costa Concordia. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Ce bateau, Laure, transportait 3200 passagers et 1000 membres d'équipage. Il était alors en Toscane, en pleine croisière méditerranéenne.
Oui, il est 21h40 ce jour-là. Le commandant découvre que le bateau est très près de la rive. Trop tard, le navire heurte un rocher. Une large brèche s'est ouverte dans la coque. L'équipage explique d'abord aux passagers que la lumière a été coupée à cause d'un problème électrique. Mais ils comprennent vite que le bateau coule. Le bateau penche, les assiettes volent et s'écrasent, raconte alors une passagère.
Les assiettes et les bouteilles nous tombaient dessus. Mais les serveurs nous disaient toujours de rester là, tranquille. Mais moi, j'ai pris les enfants et je suis partie.
Et les passagers paniquent, détaille la correspondante d'Europe 1 en Italie, Anne Treca.
C'est la ruée vers les gilets de sauvetage, les chaloupes, la panique et le personnel apparemment totalement dépassé. Le bateau se couche progressivement, des personnes tombent à l'eau, des canots de sauvetage tombent sur les ponts.
Certains passagers se jettent à l'eau et ceux qui ne savent pas nager se noient. Il y a des gilets de sauvetage, mais pas assez et les chaloupes sont pleines.
C'est une heure après le choc que le navire a finalement lancé l'alerte.
Cette brève sonnerie, puis une longue, retentissent. L'ordre est donné de quitter le navire. Rapidement, le commandant du navire est arrêté. Il dînait dans la salle à manger quand le bateau a heurté le rocher. Et les membres d'équipage, comme Felipe, dénoncent alors l'attitude de leur capitaine.
Les ordres sont arrivés beaucoup trop tard parce qu'il faut du temps pour préparer les canots de survie, pour les descendre du bateau, pour les mettre en route. Après, on s'est débrouillé sans le capitaine pour ramener les passagers à terre et puis on est revenu encore et encore pour en chercher d'autres. C'est incompréhensible ce qui s'est passé. Le capitaine a abandonné son navire.
Et en effet, le commandant, lui, a déjà quitté le navire. Un peu avant minuit, il est aperçu sur les rives de la petite île de Giglio, juste à côté. Et les questions demeurent. Que faisait ce bateau si près des berges? Demande alors Monique, une des passagères françaises.
Je suis sortie sur le balcon et j'ai vu que le bateau était tout proche des rochers. Je dirais 200-300 mètres du rocher. Mais bon, le bateau était tellement énorme que 200-300 mètres du rocher, ça paraît tout proche. Mais de toute façon, on n'avait rien à faire là, à ce moment-là.
Puis lors viennent quelques jours plus tard les questions concernant le dédommagement, l'indemnisation des victimes.
Oui, chaque passager devait recevoir 11 000 euros. Ce sera finalement 9 000 euros après quelques mois de négociations. Difficile toutefois de donner un prix à ce qui a été vécu, dit alors un des rescapés.
Moi, ça me convient personnellement. Est-ce que cette somme va être suffisante pour ceux qui ont un choc psychologique très important? Ils ont peut-être besoin d'un suivi psychologique médical qui coûte relativement cher. Ils vont peut-être réclamer beaucoup plus.
On est alors une dizaine de jours seulement après le naufrage et beaucoup de passagers estiment qu'en proposant très vite une somme d'argent, la compagnie du Costa Concordia veut en réalité, selon les mots de certains, étouffer l'affaire au plus vite.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. C'était le jour où vous restez avec nous. On va parler dans un instant de cet officier de l'armée de l'air qui est en train de descendre la Loire seul et en kayak.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à nos côtés. Il est 6h15 et on s'intéresse à présent à ce défi que s'est lancé un militaire, Pascal, membre des commandos parachutistes. Atteint du syndrome de stress post-traumatique, le PTSD, après avoir vécu des combats meurtriers, il est en train actuellement de descendre la Loire en kayak et en totale autonomie. Un moyen de surmonter cette blessure invisible et de mettre en lumière ce mal qui touche de nombreux soldats de retour de mission.
Et Pascal est en ce moment en train d'affronter l'hiver rigoureux sur cette Loire sauvage, 700 km de parcours entre Roanne et Saint-Nazaire, une opération baptisée Silver Aventure débutée lundi. Il espère arriver samedi matin et pour préparer cette aventure, il a fait appel à vous, Thomas Poirier. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes éducateur spécialisé kayak. Vous avez participé à ce projet hein, de bout en bout jusqu'au départ lundi. Vous avez des nouvelles de Pascal d'abord. Commençons par prendre de ces nouvelles. Comment ça se passe?
Oui, Pascal va bien, il a passé Orléans et la route continue plein ouest maintenant où les vents lui seront plus porteurs. Moi j'ai rencontré Pascal il y a 2 ans pour élaborer ce projet. Et moi étant expert modestement des descentes de Loire en autonomie en kayak, puisque je fais des séjours, des stages de perfectionnement, des ateliers sécurité, technique et autres. Et Pascal s'est rapproché de moi et petit à petit... par petits tronçons de Angers à Saint-Nazaire, de Roanne à Orléans, pour étudier tantôt les cours de marée ou tantôt les barrages des centrales pour garantir quand même sa sécurité. On en est arrivé à toute cette phase de préparation qui a duré une bonne année puisqu'on a été perturbé récemment. Mais là, il est parti lundi et il fait son petit bonhomme de chemin avec un climat rigoureux, comme vous dites ici, en effet.
Alors c'est un militaire aguerri, il est officier de l'armée de l'air, mais... Il a fallu quand même qu'il découvre pas mal de choses grâce à votre préparation et votre enseignement, puisqu'il n'y a aucune aide extérieure, donc il faut bivouaquer, il faut alors avoir affaire au courant. Et puis, c'est l'hiver, le kayak, on le voit sur les photos qu'il poste, d'ailleurs sur Instagram, le kayak est gelé le matin, donc il y avait pas mal de choses à voir en amont.
Alors ben oui, après, Pascal est de formation militaire, donc il a quand même déjà beaucoup de billes sur le fait d'évoluer dehors, en autonomie, en sécurité, en respectant son corps et son rythme de sommeil. Après, moi, c'est plus localement et les petites techniques liées à l'activité kayak sur ce fleuve-là qui peut présenter quelques risques, quelques pièges.
Pourquoi le kayak ? Parce que il était non pratiquant du kayak, c'est pas un peu dangereux pour quelqu'un qui ne pratiquait pas le kayak avant ?
Le kayak est assez complet, qu'on retrouve quand même aussi, lui, en tant que commandant de l'armée de l'air, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte, donc je pense qu'il y a aussi ces défis qui restent techniques et complexes. Donc là, il y a différents vecteurs, hein, comme en aviation, à prendre en compte, le courant, le vent, et puis les différents pièges liés aux phénomènes un peu mécaniques de l'eau. Donc ça reste très intéressant, et surtout pour être plongé au cœur d'une nature sursourcée aussi, être au cœur de l'élément, même si il y a tantôt des ponts et des villages, des villes même, on a quand même, en étant au cœur du fleuve, cette sensation d'être immergé, en immersion complète avec la nature.
Vous parlez justement de se ressourcer. Est-ce qu'il vous avait parlé de son mal lorsque vous vous prépariez, de ses difficultés ?
Pas en amont, c'est arrivé au coin du feu, sur les premiers bivouacs où on s'est rencontrés, sur la première session où on s'est rencontrés en vrai pour aller faire un bivouac en kayak, dans le cadre de ma petite activité, moi, d'artisan, où on est parti en plein mois de février pour commencer à goûter un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre.
Je viens à préciser, au-delà de la performance physique, cette descente de la Loire en kayak est une façon de faire connaître le syndrome du stress post-traumatique chez les militaires, une pathologie reconnue officiellement par les armées, mais qui est longtemps resté tabou. Il existe la Fondation des Gueules Cassées qui œuvre pour la libération de la parole autour de cette blessure. Savez-vous si le défi de Pascal est soutenu par ses camarades militaires ? Est-ce que toute cette semaine, il reçoit des messages ?
Ah oui, moi aussi, tout le monde cherche Pascal sur l'application pour le positionner. Les gens se regroupent sur les ponts, l'encouragent. Il y a déjà eu par le passé aussi des flottes directement en avion qui passaient nous encourager sur des actions qu'on a menées aussi avec d'autres gueules cassées, puisque les gueules cassées, c'est en sorte le sponsor quand même principal de Pascal. Mais tout au long de la Loire, il y a quand même plusieurs bastions, et aussi il a un bon réseau, donc il est suivi tout au long de la Loire. Et ces gueules cassées ont à cœur justement de mettre en lumière ce que sont les blessures syndrome post-traumatique. C'est assez récent quand même, hein. Ça prend de la place petit à petit, même au niveau de l'opinion en règle générale sur le bien-être au travail et comment on va psychiquement dans nos métiers. Là, en l'occurrence, à l'armée, où on demande quand même beaucoup d'efforts physiques et psychiques aux personnes, aux soldats, il y a une vraie volonté de mettre en lumière, d'en parler, et en sens, Pascal, qui lui est commandant en tant qu'officier, ça n'a pas dû être facile, je pense. Un officier qui ouvre la voie de dire j'ai eu un traumatisme, regardez, je vais faire un défi, donc c'est quand même très courageux de sa part.
Merci beaucoup, Thomas Poirier, de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Europe 1. Vous êtes guide et éducateur spécialisé kayak. Vous avez participé à la préparation de ce défi. Donc Pascal est en train de relever, ce militaire en train de descendre la Loire avec peut-être un record en bout de course. Il y a la performance, mais aussi la reconstruction après une blessure de guerre. Merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1, l'actualité en temps réel avec Alban Le Prince.
La conférence de presse du Premier ministre australien vient de débuter à l'instant. On pourrait en savoir plus sur l'avenir de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Ce matin, le tirage au sort a été reporté à 6h15, heure française. Sans explication, le numéro 1 mondial du tennis est toujours menacé d'expulsion. On revient en France avec cette journée qui s'annonce sans précédent dans l'éducation nationale. Toutes les professions sont en grève pour dénoncer le protocole sanitaire mis en place dans les écoles. La moitié des établissements restent fermés. Les trois quarts des enseignants sont absents. Feu vert cette nuit du Sénat sur le projet de loi instaurant le pass vaccinal avec des modifications. Députés et sénateurs doivent maintenant se mettre d'accord. Ce sera cet après-midi en commission mixte paritaire.
Ne serait-il pas l'heure ? Oui, 5h51. Oula, il est grand temps d'accueillir en studio notre monsieur gastronomie.
À table, bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Olivier, aujourd'hui vous nous proposez un produit d'exception, la truffe dont la saison bat son plein. Produit qui, il faut le dire, n'est pas accessible à tous.
Mais vous savez qu'il s'agit d'un produit rare et disons-le, assez cher, c'est évident. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette chronique car je me fais fort de vous expliquer comment déguster de la truffe à un prix, on va dire, à peine supérieur à celui d'un menu dans un fast-food. Ah. Mais revenons à notre truffe pour commencer. Celle dont je vous parle aujourd'hui, c'est la seule, la vraie, la meilleure, la Tuber menalosporum, autrement connue sous le nom de truffe noire du Périgord. Alors, il faut savoir qu'elle se récolte de début décembre à mars, mais elle est vraiment mûre, généralement à partir du mois de janvier, après les premières froids. C'est donc maintenant.
Et on la trouve où ?
En France, c'est dans le sud-est, dans la Drôme, le Vaucluse, les Alpes d'Haute-Provence, que se situe aujourd'hui la plus grande partie de la production. Le sud-ouest, qui fut longtemps la région de prédilection de la truffe, a vu sa production chuter spectaculairement ces dernières années. On en trouve désormais en Touraine aussi, il faut le savoir. Mmh. Et à la fin du 19e siècle, figurez-vous que la France produisait plus de 1300 tonnes de truffes Tuber menalosporum par an. Eh oui. Et dans certaines campagnes, on la donnait à manger aux cochons. Et certaines familles étaient contraintes, figurez-vous, de manger de la truffe faute d'avoir des pommes de terre. Incroyable. C'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, la production est d'environ seulement 50 tonnes annuelles.
Alors que s'est-il passé entre-temps, du coup ?
Ben, la désertification rurale, l'abandon de l'entretien des truffières, des aléas climatiques. Mais depuis quelques années, puis son succès grandissant, la culture de la truffe repart à la hausse. On en plante environ 1000 hectares par an, mais un chêne truffier met entre 8 et 10 ans pour devenir productif. Et aujourd'hui, il faut savoir que ce sont les voisins, les Espagnols, qui, grâce à des plantations massives, sont devenus les premiers producteurs de truffes au monde. Des truffes de qualité, hein, que l'on trouve aussi largement chez nous.
Alors, est-ce que les prix demeurent très soutenus ? Est-ce que c'est très cher, la truffe, cette truffe noire ?
Mais il faut savoir que les prix sont fixés chaque semaine sur les fameux marchés truffiers. Alors, ceux de l'Albanque ou de Carpentras, hein, par exemple, ils répondent une bête l'eau, hein, celle de l'offre et de la demande. Mmh. C'est un marché qui est très codifié, il faut voir ça une fois dans sa vie. Et après avoir flambé à Noël, les cours sont généralement à la baisse en janvier. C'est le cas, elle est un peu plus chère que l'an dernier. On la trouve cette semaine entre 600 et 700 euros en moyenne hors taxe sur le marché. Vous la paierez évidemment un peu plus cher après chez les détaillants, lorsqu'elles auront été triées et brossées. Et sur Internet, des spécialistes de la truffe la proposent en vente directe autour de 1100 euros le kilo, 1000 euros. Oui. Et ça pourrait encore baisser.
Oui, donc ça reste cher. Alors, je me rappelle de votre promesse au début de cette chronique. Comment fait-on, Olivier, pour nous faire déguster cette truffe au prix d'un menu de fast-food ?
Alors, le prix du kilo est évidemment impressionnant, mais il n'en faut pas tant que ça, figurez-vous, pour profiter de ces saveurs uniques. Intelligemment utilisées, 10 grammes de truffe par personne suffisent à vous faire vivre une belle expérience. Vous achetez donc une petite truffe de 40 grammes pour 4 personnes. Mm-hmm. Vous la hachez très finement, vous la mélangez à du beurre salé que vous avez fait ramollir. Vous laissez maturer le tout pendant 3 jours, ce qui va permettre au beurre de bien s'imprégner des arômes de truffe. Faites cuire des pâtes ou du riz, un risotto par exemple. Oui. Vous venez déposer ce beurre pratiquement au dernier moment dessus, parce qu'il ne faut pas que la truffe cuise et qu'elle chauffe trop fort pour garder ses arômes. Et je vous garantis que pour un prix relativement accessible, vous avez une vraie belle expérience de truffe.
Alors on fait infuser nous-mêmes cette truffe, mais que penser des produits à la truffe ? Déjà tout fait ?
Oui, ça vous les fouillez absolument. Alors que ce soit la mayonnaise, les chips, le fromage, les charcuteries, la moutarde et surtout l'huile, la truffe se décline malheureusement un peu partout. Mais hélas, vous n'avez pratiquement aucune chance de manger de la vraie Tuber menalosporum dans ces produits. En tout cas, quand il y en a, c'est moins de 1%, donc vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que l'arôme de la truffe est trop volatile et que dans presque tous les cas, c'est un arôme de synthèse que vous allez consommer, donc pas de la vraie truffe menalosporum.
C'est noté, merci beaucoup Olivier.
Bonne journée et bonne truffe.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant la météo, le journal et une grève.
Une grève massive que vont suivre les 3/4 des enseignants dans le premier degré. C'est simple, la moitié des écoles ne vont pas ouvrir ce matin, c'est en tout cas ce que promettent les syndicats. Jeudi noir dans l'éducation nationale pour protester, vous le savez, a fortiori si vous êtes parents, contre ce protocole sanitaire qui a changé 3 fois depuis le début de l'année. Protocole qui, selon les enseignants et chefs d'établissement, leur rend la vie impossible. Avec ce sentiment que l'école n'a de but que de permettre aux parents d'aller travailler. On en parle dans une dizaine de minutes avec un directeur d'école, justement. Un directeur d'école en grève, Olivier Flipeau, délégué du syndicat des enseignants UNSA. On écoutera ensuite en ligne votre partition.
Et direction la prison de Folsom en Californie le 13 janvier 1968. Cela et Bad de Folsom Prison a contribué à écrire la légende de Johnny Cash. On sera derrière les portes du pénitencier dans 20 minutes.
La météo, Anissa Haddadi, un peu de patience avant une très belle journée.
Oui, alors ce matin, on a quelques nuages effectivement sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France. Voilà, c'est gris, c'est couvert ce matin. Alors là où il y a des nuages, il n'y a pas de température négative. Donc dans le nord-ouest, ça va, vous avez des températures positives ce matin. Attention, à l'est, on a des brouillards givrants. Dans le centre, hein, en Auvergne-Rhône-Alpes, là aussi pas mal de brouillard dans le Poitou, en Occitanie. Mais cet après-midi, vous le disiez Julien, c'est du grand et beau soleil pour tout le monde. Le Mistral va même se calmer. En Corse, on a toujours ce vent d'est qui souffle jusqu'à 60 km/h. Et on a 5 départements toujours en vigilance orange crue autour de la Garonne et ses affluents qui débordent encore aujourd'hui. Comptez moins 7 à 5 degrés ce matin.
Couvrez-vous donc. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Très bon début de journée. Il est 6h. Les écoles, collèges et lycées paralysés aujourd'hui, journée de grève pour protester contre les protocoles sanitaires. Un protocole qui repose sur les autotests, autotests qui sont l'angoisse des parents. Alors pour les soulager, la ville de Marseille vient d'ouvrir un centre de dépistage réservé aux enfants. Reportage dans un instant. Évasif et agacé, Mohamed Abrini face aux questions des juges hier au procès du 13 novembre. Les zones d'ombre persistent, le récit de l'audience dans un instant. Et puis Stéphane Guillon de retour sur scène avec un nouveau spectacle. L'humoriste, toujours cinglant et cynique, a trouvé une nouvelle source d'inspiration. Une rencontre à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Un coton-tige dans le nez, puis deux, puis trois. Trois autotests, c'est la règle pour les élèves cas contact. Dernière version du protocole sanitaire, intenable pour les enseignants, en grève ce jeudi. Une épreuve aussi pour les parents face aux pleurs et aux cris quand ils dégainent les couvillons à la maison. Alors pour les aider, à Marseille, la ville vient d'ouvrir un centre de dépistage dédié aux plus jeunes. Chez les 6-10 ans, près d'un enfant sur 30 a été testé positif cette semaine. Le reportage de notre correspondant Stéphane Burgat.
Ce n'est une partie de plaisir pour personne. La petite Émilie se débat de toutes ses forces pour échapper à l'écouvillon. Son papa, Mathieu, n'aurait pas pu s'en sortir seul avec un autotest.
Depuis le début du Covid, ça fait 7 fois qu'elle a été testée. Et à chaque fois, ça a été des cris, des hurlements. C'est la guerre. Et l'autotest à la maison, c'est pas possible.
Voilà. Vaut mieux que ce soit des gens qui sachent le faire.
Oui, vaut mieux, c'est sûr.
Des infirmières formées aux techniques d'approche pédiatrique, des box décorées, tout est pensé ici pour adoucir l'approche avec l'enfant, selon le médecin-chef David des Marins-Pompiers.
Il y a toute une façon d'aborder en fait l'enfant au moment d'effectuer ce geste, de jouer avec lui de façon à ce que ce soit le moins désagréable possible, en faisant par exemple lui-même un test sur une poupée pour ensuite le lui faire sur lui.
L'adjointe au maire à la santé, Michel Rubirola, a maintenu ce projet malgré le nouveau protocole scolaire de Jean Castex.
D'abord, on va attendre de voir ce qu'il en est de ce maintien de ce protocole ou pas. Et de toute façon, est-ce qu'il y aura des autotests en quantité suffisante? Il y a des parents qui ne veulent pas faire des autotests, il y a des enfants qui ont peur, donc ce dispositif est maintenu de toute façon.
Jusqu'à 250 enfants peuvent être testés ici chaque jour. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
Et des enfants qui ne seront a priori pas concernés par le pass vaccinal. C'est en tout cas la condition posée par le Sénat qui a adopté le projet de loi en première lecture cette nuit. 249 voix pour, 63 contre. Dans cette version du texte, le pass vaccinal ne sera imposé qu'à partir de 10 000 hospitalisations liées au Covid en France.
Et pour l'instant, il y en a un peu plus du double, près de 24 000. Aux États-Unis, les hospitalisations aussi battent des records, 140 000 par jour en moyenne cette semaine. Le début d'une période de transition pour Anthony Fauci, conseiller de Joe Biden.
Omicron, avec son extraordinaire degré de contagiosité, va finir par toucher à peu près tout le monde. Peut-être que beaucoup de vaccinés seront infectés, mais s'en sortiront très bien. Ceux qui ne sont toujours pas vaccinés subiront des conséquences plus sévères. Donc actuellement, nous ne sommes pas dans une situation acceptable où l'on peut vivre avec le virus, mais je crois que nous finirons par y arriver.
Voilà l'optimisme de l'Américain Anthony Fauci, partagé par l'Agence européenne des médicaments. Nous allons arriver au bout du tunnel. Un espoir lié à l'extrême contagiosité d'Omicron. Les explications de Yasmina Katou.
Plus il y aura de personnes positives au Covid, plus la part de la population immunisée augmentera. D'ici 2 mois, un Européen sur 2 aura été contaminé par Omicron, estime l'Organisation mondiale de la santé. Les non-vaccinés développeront une protection naturelle. Les vaccinés, eux, posséderont encore plus d'anticorps. Cette potentielle immunité collective permettra de mieux faire face à l'apparition d'un nouveau variant, explique Philippe Amouyel, épidémiologiste.
On peut avoir encore de nouveaux variants. Ce qu'on peut dire essentiellement, c'est que le virus, quel qu'il soit, le nouveau, aura quand même beaucoup plus de difficultés à avoir la circulation qu'on observe actuellement avec ce variant Omicron. Meilleur sera l'avenir.
Selon l'épidémiologiste, d'ici l'été, une grande partie de la population dans le monde pourrait être immunisée. Le Covid deviendrait alors une maladie endémique, saisonnière, comme la grippe. Pour multiplier les chances d'y arriver, l'OMS demande aux laboratoires de travailler sur des vaccins pour mieux lutter contre la transmission.
Yasmina Katou.
Ni doute, ni remords pour Mohamed Abrini. L'accusé a été interrogé hier au procès des attentats du 13 novembre.
Gladys Laffitte, vous avez suivi l'audience pour Europe 1. En début de semaine, Mohamed Abrini avait justifié les attentats de Paris. Mais hier, l'ami d'enfance de Salah Abdeslam était bien moins loquace.
Oui, face aux salves de questions précises, l'accusé a dit ne plus se souvenir, ne pas aimer les détails. Mohamed Abrini cherchait parfois longuement la bonne réponse, à tel point que Salah Abdeslam, assis directement à côté de lui, semblait les lui souffler. « Ce n'est pas à vous que je pose les questions, votre tour viendra », l'a vite repris le président. Les réponses de son ami d'enfance n'ont en tout cas pas convaincu hier. Il était question d'un mystérieux voyage en Angleterre à l'été 2015, des repérages selon les enquêteurs. À l'appui, cette photo de Mohamed Abrini devant le stade de foot de Manchester. Mais quand on est arrêté dans une affaire comme ça, on imagine toujours le pire, a justifié l'accusé. Peut-être parce qu'il y a eu un attentat au stade de France, a avancé prudemment le président. Rien de tout cela pourtant, a assuré et souvent excédé le belgo-marocain. S'il est allé en Angleterre, c'est pour récupérer de l'argent pour le compte d'Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats. Une mission confiée en Syrie où Mohamed Abrini a assuré n'avoir pas combattu pendant ses 9 jours sur place.
Le récit de Gladys Laffitte et l'interrogatoire des accusés se poursuit jusqu'au 4 février. Des boulangers jusqu'aux agriculteurs, l'indignation a gagné toute la filière du blé. Hier, le groupe Leclerc a annoncé le plafonnement de sa baguette à 29 centimes, un prix bloqué pendant au moins 4 mois face à l'inflation, a justifié la chaîne de supermarchés. La FNSEA, premier syndicat agricole, a dénoncé, je cite, une destruction des valeurs qui met en péril la rémunération des producteurs.
Certains l'aiment, d'autres le détestent. Une chose est sûre, il ne laisse pas indifférent. Il, c'est l'humoriste Stéphane Guillon et qui remonte sur scène.
Et ce soir, c'est la première de son nouveau spectacle au Théâtre Saint-Bernard à Paris. Un one-man show acide avec une inspiration, bien sûr, le Covid. Rencontre avec Naïma Benchemann.
Les antivax, c'est compliqué. Les deux artistes qui les ont immédiatement soutenus, c'est Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Moi, j'ai su ça, le lendemain, j'étais vacciné.
Après une diète forcée de 18 mois, Stéphane Guillon retrouve enfin son public.
Est-ce que pour qu'on soit pour le vaccin, Macron n'a pas demandé aux deux plus cons d'être contre ?
Il ne déroge pas à sa réputation de trublion. Dans Stéphane Guillon sur scène, à coups de pique cynique, il dresse un bilan au vitriol de la période de confinement.
Je suis parti du principe que l'humanité a fait une pause de 18 mois et qu'elle a pu rendre conscience de ses dérives, de ses erreurs et que maintenant on repart d'un bon pied. Vous l'avez compris, c'est un constat très ironique puisque en vérité, comme disait l'autre, tout va de mal en pis.
Non, il y a eu des aspects positifs. Toutes ces choses qu'on ne faisait plus, classer sa bibliothèque, trier ses vieilles photos, refaire l'amour à sa femme.
Le rire est un exutoire. Je ne comprends pas qu'on dise qu'il ne faut pas rire de ce qui fait mal. Ça fait moins mal quand on en rit, disait Pierre Desproges. Paris réussi pour Stéphane Guillon. Sur scène.
Il y a un spectacle au Théâtre Saint-Bernard à Paris à voir jusqu'au 9 avril.
Acide comme le café qu'on boit à Europe 1. Merci beaucoup.
C'est vrai.
Romanoté pour ce journal. On passe au sport.
7, voilà.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et on commence avec du tennis et un nouveau coup de théâtre en Australie.
Oui, alors que le tirage au sort de l'Open d'Australie devait avoir lieu il y a un peu plus d'une heure, il a été reporté sans aucune explication. Il devrait commencer d'une minute à l'autre alors que le numéro 1 mondial Novak Djokovic est toujours sous le coup d'une expulsion du territoire australien. Le Premier ministre australien qui donne d'ailleurs une conférence de presse en ce moment.
On passe au handball, Martin, avec le coup d'envoi de l'Euro.
Oui, et ça commence dès ce soir pour l'équipe de France avec un gros morceau d'entrée, la Croatie. Des Bleus qui arrivent diminués en Hongrie. Plusieurs joueurs majeurs sont blessés et le Covid a perturbé leur préparation. Les champions olympiques n'ont d'ailleurs qu'une crainte, de nouveaux cas positifs durant la compétition, d'où leur sidération en découvrant le protocole sanitaire hongrois très light. Écoutez le gardien Vincent Gérard.
On a passé deux compètes où il n'y avait personne dans les tribunes et où nos hôtels étaient ultra, on va dire, sécurisés, on n'était qu'entre nous. Là, c'est sûr que quand on arrive et qu'on voit les gens en maillot de bain à la piscine à côté, on a tous été un peu surpris en arrivant dans l'hôtel parce qu'on fait tous beaucoup d'efforts pour pas être testé positif. Je ne sais pas en termes de protocole si c'est réellement respectueux pour les joueurs.
Après la Croatie, ce soir, les Bleus se frotteront à l'Ukraine et à la Serbie.
Football et une fin de match rocambolesque à la CAN hier.
Oui, l'arbitre du match Mali-Tunisie a sifflé deux fois la fin du match avant les 90 minutes réglementaires. Les Tunisiens menés 1-0 ont évidemment crié au scandale, refusant même de revenir sur le terrain pour finir la partie. Une affaire qui donne une bien mauvaise image du football africain alors que la Confédération continentale promet de statuer rapidement sur l'issue de ce match. Aujourd'hui, entrée à liste du Cameroun à domicile, les Lions indomptables affrontent l'Éthiopie. Et puis autre résultat, le Real Madrid a sorti le Barça hier en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Victoire 3-2 après prolongation grâce à un but et une passe décisive de Karim Benzema.
En bref, pour terminer, Martin.
Du volley et l'exploit de Tours en Coupe d'Europe. Hier, les Tourangeaux ont battu le Modène d'Irvine Ngapet en 8e de finale aller. Match retour la semaine prochaine en Italie. Du basket avec le retour de l'Euroleague. Monaco se déplace à Munich ce soir. Et puis un mot de biathlon avec le sprint masculin de Ruppolding aujourd'hui. En l'absence des Norvégiens, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin peuvent prendre une option sur le gros globe de cristal.
Merci Martin. Le journal des sports, signé Martin Lange.
Vous restez avec nous. Dans un instant, nous serons en ligne avec un directeur d'école en grève. Plus de la moitié des établissements du premier degré devraient rester fermés aujourd'hui. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h12, bon début de matinée sur Europe 1. Votre invité Julien est délégué du syndicat des enseignants UNSA, directeur d'une école élémentaire à Cergy dans le Val-d'Oise.
Bonjour Olivier Flipeau.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous en cette journée de grève massive dans l'éducation nationale. Grève qui devrait être, on l'a dit, suivie par les trois quarts des enseignants dans le premier degré. La moitié des écoles ne vont pas ouvrir ce matin. Qu'en est-il de la vôtre ?
La mienne fonctionnera avec une classe sur 11, normalement.
D'accord. On l'a bien compris à travers les reportages qu'on diffuse depuis hier, vous exprimez à travers ce mouvement un ras-le-bol général, on va y revenir. Mais l'élément déclencheur de cette grève, c'est le protocole sanitaire qu'on vous demande d'appliquer. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ?
D'abord, c'est une gestion extrêmement lourde, tant pour les familles qui sont en difficulté que pour les écoles, pour les directions d'école, pour les enseignants également. Je peux développer un petit peu, si vous voulez. Moi, je suis directeur d'école. Mmh. Je suis déchargé à mi-temps. C'est-à-dire que je me débrouille tout seul dans l'école sans secrétariat, sans gardien, sans infirmière, pour faire cette gestion d'école. Actuellement, je ne fais que de la gestion Covid. Je ne peux rien faire d'autre. Ce que les éléments que rajoutent et la succession des protocoles les uns derrière les autres, et en particulier les derniers, nous rendent complètement fous, parce que ça devient une gestion qui est épouvantable à plein de niveaux. Je peux vous donner plein de détails, bien évidemment.
Oui.
Par exemple, moi, c'est simple, mon week-end dernier, par exemple, je l'ai passé devant mon écran à répondre aux familles, à déclarer des nouveaux cas, à signaler que telle classe va être fermée parce que l'enseignant est lui-même atteint. Donc là, on ferme les classes, bien évidemment. À gérer des demandes diverses et variées de parents, puis à commencer à produire également des attestations qui sont finalement quelque part une forme d'ordonnance, puisque on indique le nom du parent, le nom de l'enfant, on dit que c'est un droit à retirer des autotests à la pharmacie, ça c'est individuel. Les familles font la queue pour avoir ce document, puisqu'il est nominatif, je peux pas le généraliser.
Donc en fait, vous avez le sentiment d'être devenu des assistants, des secrétaires de l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est un peu ça.
Ah mais complètement.
Ouais.
Complètement assistant de l'ARS, quelque part médecin, parce que finalement, les gens nous demandent même comment on utilise les autotests. On fait du pointage sur des documents, ce sont des suivis qui sont bien évidemment individuels, avec...
Pourtant, ce protocole, pardonnez-moi de vous couper, hein, Olivier Philippot, mais ce protocole, il a été modifié à deux reprises depuis, à trois reprises même depuis le début de l'année. Est-ce que on peut pas dire que le gouvernement reste sourd face à la situation? Elle a bien compris quand même que ce protocole, il était problématique.
Le changement ne correspond pas du tout à un souci de simplification pour les écoles. Ça n'est absolument pas vrai. Au contraire, la seule chose
de simplification pour les parents, en revanche.
À peine. Parce que finalement, quand vous les écoutez, les parents, moi je les vois tous les jours, hein, ils sont devant mon école, mais ils sont de plus en plus remontés d'ailleurs, ils nous invitent, ils nous accompagnent, ils nous disent « allez-y, faites la grève », parce que ça devient insupportable. Mais les parents nous expliquent que eux ne veulent pas faire les autotests eux-mêmes, que c'est une torture pour les enfants, que les enfants ne veulent pas, que eux, ils sont non-praticiens, et non seulement ils ne sont pas praticiens, mais en plus ils sont parents, donc c'est très compliqué. Donc finalement, où est-elle la simplification? Absolument pas.
Vous, ce que vous demandez, c'est revenir à l'ancien protocole sanitaire, celui qui était en vigueur avant fin 2021, c'est-à-dire un cas, on ferme la classe?
Alors, un cas, on ferme la classe. Moi, je comprends qu'il faille simplifier aussi, j'allais dire, la situation pour les familles, parce que beaucoup de parents nous disent « ben nous, on a besoin d'aller au travail », et on l'entend bien. Mais à partir du moment où on est d'accord sur les mêmes motivations, que je détaillerai de la façon suivante, la non-circulation du virus. Actuellement, dans ce qu'on fait, on n'est pas du tout là-dedans. Les autotests, vu comment ils sont faits par les familles, et elles nous le disent elles-mêmes, ne sont pas efficaces. On parle d'une efficacité à 30%, donc on laisse circuler le virus.
Donc c'est priorité à l'économie, c'est ce que vous nous dites, c'est priorité aux parents qui vont travailler à l'économie.
Oui, mais si on veille à la non-circulation du virus, à l'intérêt des élèves, à la facilité pour les familles, à la simplification pour l'école... à la transmission des savoirs, parce que actuellement on nous dit les classes sont ouvertes. Moi, je suis désolé, quand une classe compte 2, 4, 6 ou 8 élèves comme j'en ai encore hier, eh ben on peut pas dire que l'école tourne. Lundi, rien que lundi, sur 250 enfants, j'en avais 140 absents.
Oui,
ah oui, les écoles sont ouvertes. Oui, effectivement. Mais on s'en satisfait peu.
Que répondez-vous à votre ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer, qui a affirmé hier, on ne fait pas grève contre un virus?
Alors, de deux solutions l'une. Soit il n'a rien compris, et là on peut essayer d'être pédagogique comme il essaie de l'être avec nous, soit il le fait exprès. Moi, je tablerai sur la deuxième solution. Parce que effectivement, on ne fait pas la grève contre un virus. C'est pas du tout l'objet. Tout le monde l'aura compris, et vous, j'espère aussi. On fait grève contre un fonctionnement qui est un dysfonctionnement, contre un mépris de notre institution. Je vais vous donner un exemple très simple, là, qui date, là, je viens de le relever il y a 10 minutes. Toutes les annonces de Monsieur Castex de lundi soir, là, elles sont arrivées dans les inspections mercredi à 18h07. Notre inspecteur de secteur nous les a envoyés le même jour à 19h42. Donc lui, il fait vite. Vous rendez compte, entre l'annonce le lundi soir et les textes qui nous disent ce qu'on doit faire officiellement,
il s'est passé 48 heures.
Deux jours. Deux jours. N'est-ce pas un manque de respect, un mépris à l'égard des personnels, ça. Personnels qui, en plus, demandent à être protégés. Je vais vous reprendre un exemple très simple.
Vous n'avez toujours pas reçu les masques que vous réclamez depuis des mois?
Mais bien sûr, un enseignant maternel, les enfants de maternelle ne sont pas masqués. De quoi disposent les enseignants de maternelle? D'un masque en tissu. S'ils veulent un masque chirurgical, ils se les payent, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Et Jean Castex a promis que ces masques allaient arriver la semaine prochaine, ou en tout cas dans les tout prochains jours. Merci beaucoup Olivier Flipaud. Je suis obligé de couper là maintenant, on n'a plus le temps. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce matin, d'avoir dépeint votre quotidien avec ce nouveau protocole sanitaire qui vous pousse à faire grève aujourd'hui massivement dans toutes les écoles de France. À bientôt sur Europe 1.
À bientôt.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
À 6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Novak Djokovic restera-t-il en Australie? Le numéro 1 mondial du tennis est toujours menacé d'expulsion. Une conférence de presse du gouvernement est actuellement en cours. Ce matin, le tirage au sort des affiches de l'Open d'Australie a été reporté sans explication. Les parents dans la galère aujourd'hui face au ras-le-bol de l'éducation nationale. Toutes les professions sont en grève. Mobilisation massive dans toute la France contre le protocole sanitaire dans les écoles. La moitié des établissements restent fermés, les trois quarts des enseignants débrayent. 249 voix pour, 63 contre. Le Sénat, à majorité de droite, adopte en première lecture le projet de loi instaurant le pass vaccinal avec d'importantes modifications tout de même.
On termine en bien avec votre partition comme chaque matin. Retour le 13 janvier 1968 lorsque Johnny Cash se produit à la prison de Folsom en Californie.
Hello, I'm Johnny Cash. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down.
Johnny Cash ne le sait pas encore, mais cette prestation qui donnera l'album Live at Folsom Prison va relancer sa carrière. Ce n'est pourtant pas une première. Voilà plus de 10 ans qu'il se produit dans différents pénitenciers des États-Unis. Depuis qu'il a assisté en 1951 à la projection du film Inside the Walls of Folsom Prison, derrière les murs de la prison de Folsom, Johnny Cash se sent concerné par le sort réservé aux prisonniers.
Cette fois, la performance est synonyme de nouveau départ.
Après des années passées à se détruire la santé, il a troqué drogue contre religion et mène une existence épanouie avec l'amour de sa vie, John Carter.
La nuit qui précède le concert derrière les grilles de Folsom a été courte et le réveil difficile.
Johnny Cash, June Carter et les musiciens franchissent le portail est de la prison. Dans son livre, Johnny Cash s'est évadé. L'auteur et journaliste Jacques Collin raconte l'atmosphère lugubre qui règne, l'épreuve des contrôles et des fouilles, les tables fixées au sol dans le réfectoire. Deux choses sont prévues, le premier pour la moitié des détenus, c'est-à-dire 1000 hommes, le second pour l'autre moitié. Depuis la coursive, les gardes veillent, armes au poing, Johnny Cash en costume noir et chemise blanche s'avance vers le micro. Pourvu que mes cordes vocales ne me jouent pas un mauvais tour, se dit-il. Lorsqu'il se met à chanter, la fatigue a disparu. Il est porté par ce public qui hurle, applaudit à tout rompre, des prisonniers qui ont reçu l'ordre de ne pas se lever de leur siège.
Le concert se termine avec une chanson que Johnny Cash a découvert la veille.
Oui, une chanson écrite par un détenu condamné pour vol à main armée du nom de Glenn Charlie.
There's a grey stone chapel here at Folsom. A house of worship in this den of sin.
Ce gospel, Greystone Chapel, fait référence à la chapelle de la prison. Malgré son état d'épuisement avancé, Johnny Cash avait écouté attentivement la bande qu'on lui avait remise. Il avait mis un point d'honneur à la prendre pour l'inclure dès le lendemain dans la liste de ses chansons.
Le disque At Folsom Prison sort 4 mois plus tard.
Le triomphe inattendu était immense. Pour le Los Angeles Times, Johnny Cash n'a jamais été aussi bon. Pour le magazine Rolling Stone, il est le chaînon manquant entre country et rock et fait le lien entre Elvis Presley et Bob Dylan.
When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Yeah!
Johnny Cash, Folsom Prison Blues, extrait du live enregistré à la prison de Folsom en Californie le 13 janvier 1968. Cet épisode de la vie de l'homme en noir et plus encore est à retrouver dans le livre de Jacques Collin, Johnny Cash s'est évadé, paru aux éditions du Castor Astral.
Qu'est-ce qu'on aime Johnny Cash. Merci beaucoup Ombline. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.